Question d'islam par Al Bensheir. Aujourd'hui, nous parlons de laïcité française et de pluralité religieuse, la pluralité tout court, en lien avec la diversité des traditions religieuses et bien au-delà. Bien sûr, il y a aussi un traitement spécifique, si je puis dire, à la tradition religieuse islamique en France. Et j'ai grand plaisir à recevoir Rita Armand-Bello. Merci de nous donner de votre temps, de venir nous parler de cette laïcité française et de la pluralité. Vous êtes directrice d'études émérite à l'École des hautes études en sciences sociales et vous êtes attachée au Centre des savoirs sur le politique, recherche et analyse, le fameux CESPRA. Il est vrai que dans notre pays, en France et un peu partout de par le monde, pour ceux qui s'intéressent au cas français, la notion de laïcité laisse beaucoup en désarroi parce que, dit-on d'emblée, le concept même n'est pas autosuffisant. Il ne suffit pas de dire laïcité pour qu'on comprenne ce dont il s'agit au juste. Et la meilleure preuve, c'est qu'on éprouve souvent le besoin de lui accoler une épithète. Et beaucoup de grammairiens disent « méfiez-vous de l'adjectif qui affaiblit le substantif ». Sommes-nous dans cette situation ?
Oui, je crois tout à fait. Je crois que la formule est excellente et particulièrement dans ce cas-là. En fait, la question, il y a des raisons pour lesquelles il y a des hésitations et même à l'heure actuelle des discussions très lourdes sur la laïcité, car nous ne disposons pas d'une définition de la laïcité, laquelle n'aurait pu être donnée que par la loi. Et ceci n'existe pas. Mais j'ai tendance à penser que dans le projet de ceux qui ont installé la laïcité en France, s'ils n'ont pas donné de définition, c'est qu'ils n'ont pas voulu le faire. Je suis parfaitement certaine que s'ils avaient voulu, ils l'auraient fait. Mais que précisément, ils ont voulu laisser un certain espace de souplesse. Alors, ce dont nous disposons, c'est la norme suprême, la Constitution, qui dit que la République est indivisible, laïque et sociale. Et je crois que la place de l'adjectif laïque entre indivisible et sociale doit être prise au sérieux. Alors ensuite, pour avoir une notion quand même de ce qu'est la laïcité, je pense qu'il faut se tourner vers l'histoire.
Oui, et d'aucuns ajoutent, nous n'allons pas faire les pédants, surtout je le dis pour ma petite personne ici à ce micro, on fera une ou on donnera quelques définitions apophatiques, au sens où on dit ce qu'elle n'est pas au lieu de dire directement ce qu'elle est. La laïcité n'est pas la religion de ceux qui n'ont pas de religion.
Absolument pas.
La laïcité n'est pas une idéologie qui a une densité doctrinale. C'est pas la philosophie de l'État, puisque si elle est déjà une philosophie, elle entre en concurrence avec des options philosophiques, alors qu'elle est censée réguler ou gérer la coexistence des différentes options.
Absolument, leur donner leur place. Justement, le retour à l'histoire permet de voir dans l'histoire ce que j'appellerais une dynamique de neutralisation, qui est passée par une série de lois. Et quand on dit la laïcité, c'est la loi de 1905, on a beaucoup entendu, notamment dans la bouche de politiques, une affirmation vraiment très forte sur le fait que la laïcité, ce serait la loi de 1905. Certains ont même dit toute la loi de 1905 que la loi de 1905. Moi, je ne suis pas tout à fait persuadée. On constate que la laïcité s'est élaborée de manière très progressive à travers toute une série de lois. Et la loi de 1905 est certainement une loi très importante en ce sens qu'elle donne, elle affirme des principes et puis elle donne aussi les moyens juridiques de l'exercice des cultes dans ce pays. Et cette dynamique de neutralisation, il me semble que le cœur de cette dynamique, c'est justement de rendre neutre du point de vue de la religion un certain nombre de sphères de la vie publique et citoyenne, de l'école publique aussi, de manière à, comme vous l'avez très bien dit, donner leur place et leur entière liberté aux croyances, que ce soit des croyances religieuses ou que ce soit aussi des positions philosophiques qui s'éloignent de toute appartenance religieuse, ce qu'on appelle les convictions.
Alors continuons dans ce registre et à vous entendre, la laïcité, affirmons-le, est un principe, ce n'est pas une valeur. Alors si on pinaille un peu dans l'axiologie moderne, on a la valeur, le principe, la vertu. Et le principe n'étant pas une valeur, le principe est fondé sur le droit et c'est un principe juridique.
Alors c'est un principe juridique, mais je pense quand même que effectivement, ça n'est, on ne peut pas le définir comme une valeur,
mais c'est
associé,
un corpus,
voilà, c'est associé à un certain nombre de valeurs, effectivement.
Comme on dit, des principes adossés à des corpus de valeurs.
C'est ce qu'on voit très bien dans l'affirmation de la Constitution, indivisible et sociale aussi.
De ce point de vue aussi, la laïcité devient, si on revient à l'histoire, une sorte de long cheminement et c'est une conquête de l'esprit humain. C'est un acquis de la modernité politique et intellectuelle.
J'aimerais évoquer ce qui, je crois, est un premier pilier de la laïcité alors que le terme n'existait pas encore. C'est la loi de 1792 qui crée un état civil, à partir duquel le mariage est d'abord un mariage civil, ce qui veut dire le même mariage pour tous, quelles que soient par ailleurs leurs appartenances religieuses. Et il faut savoir que cela règle un très grand nombre de conflits et d'inégalités qui avaient été très durement subies, notamment par exemple par les protestants, qu'on obligeait à pratiquer le mariage catholique, puisque le seul mariage reconnu, c'était le mariage catholique. Mais la loi de 1792 précise aussi que, par ailleurs, chacun est libre de faire célébrer le mariage de son choix. Ça n'empêche pas. Et c'est seulement un peu plus tard, en 1802, que là, on a introduit un ordre entre les deux et qu'il a été décidé que le mariage civil devait être célébré en premier et que le mariage religieux ne pouvait pas être célébré sans attestation du mariage civil. Voilà une première étape de la dynamique de neutralisation.
Oui. D'aucuns disent que la proto-histoire de la laïcité remonte à John Locke et sa lettre sur de la tolérance. D'autres disent non, c'est encore bien avant. Où situez-vous ces frémissements de vouloir séparer les deux ordres ?
Je me référerais, vous savez, aux travaux de l'historien Olivier Christin sur les guerres de religion et qui montre l'apparition d'un pouvoir politique qui précisément commence déjà à être neutre par rapport aux différentes religions, pour essayer de résoudre les conflits, et puis d'assurer des conditions à peu près égales aux membres des différentes religions. Et de ce point de vue-là, une grande figure un peu oubliée de l'histoire française, ça serait Michel de l'Hôpital.
On a dit que la laïcité, finalement, est un principe juridique, adossé à certains corpus de valeurs, mais c'est aussi un bouclier qui protège et ce n'est pas un marteau qui cogne. Donc c'est aussi un principe de liberté et notamment de la liberté de conscience.
Totalement, de la liberté de conscience et aussi de la liberté de culte. Parce qu'on peut dire que atteindre à la liberté de conscience, c'est le fort intérieur, c'est pas si facile que ça. Et les atteintes, c'était beaucoup des atteintes à la liberté de culte et puis des inégalités de statut aux personnes en fonction de leur groupe d'appartenance. Et effectivement, la laïcité, c'est une façon de résoudre la question en éliminant ces différences, en créant tout un domaine de la vie des personnes qui est un domaine neutre, où il n'y a pas de différenciation et d'égalité. Mais quand on parlait tout à l'heure de principe à propos de la loi de 1905, il y a effectivement un principe de liberté de conscience et même un principe de liberté de culte. Mais il est précisé que ce principe est limité par l'atteinte à l'ordre public.
C'est-à-dire, s'il devait y avoir une hiérarchisation, il y a d'abord la liberté de conscience, la liberté religieuse, la liberté de l'exercice du culte dans le cadre du respect de la loi en vigueur et sans atteinte à l'ordre public. Pour la liberté de conscience, j'entends souvent dire « Ah oui, mais c'est la liberté de croire ou de ne pas croire ». Et on oublie souvent d'ajouter « et de pouvoir changer de croyance ». Parce que d'aucuns disent « Ah oui, mais une fois que vous avez opté pour la croyance ou la non-croyance », et surtout dans le cadre de la croyance, l'apostasie serait criminalisée. Or, criminaliser l'apostasie est en soi criminel et la laïcité permet de changer de croyance.
Écoutez, je vous remercie beaucoup d'apporter cette précision. Elle est effectivement nécessaire et très importante. La laïcité, c'est effectivement la liberté de chacun de changer de croyance, de passer d'une croyance à une autre ou d'abandonner toute croyance. Ça fait partie de la liberté individuelle que la laïcité garantit.
Nous verrons tout au long de l'émission, et tout particulièrement lorsque nous nous attarderons sur la tradition religieuse islamique, que finalement, dans un cadre laïque et dans un état laïque, nul ne peut arguer de son option métaphysique ou religieuse pour se soustraire à la loi commune. On ne peut pas s'affranchir de la loi positive, bien entendu, sous prétexte qu'elle ne va pas de pair avec sa croyance religieuse.
Oui, là, effectivement, il y a une hiérarchie et c'est la loi civile qui... Alors, il peut y avoir des cas particuliers où, effectivement, il y a une hésitation et même une concurrence entre la norme civile et la norme religieuse. C'est la norme civile qui prévaut, mais en faisant le moins possible de tort à la norme religieuse, comme l'ont voulu notamment ceux qui ont mis au point la loi de 1905.
Et on peut croire in petto que la loi n'est pas bonne, mais on ne peut pas s'y soustraire.
Non, que ce soit citoyen, citoyenne française ou tout habitant du territoire français ne peut pas se soustraire à la loi.
Heureusement, en démocratie, on peut critiquer la loi quand elle est en gestation ou quand on est en train, si j'ose dire, la fabriquer. On peut s'y opposer, mais une fois qu'elle est promulguée, elle s'impose à tous.
Oui, et puis elle s'impose absolument à tous. Alors justement, comme j'évoquais tout à l'heure le mariage et cette obligation de célébrer le mariage civil avant le mariage religieux, obligation qui parfois n'est même pas connue des personnes, mais c'est une stricte obligation et le fait de ne pas s'y conformer est sanctionné par le code pénal. Alors je ne crois pas que les sanctions soient prises très souvent, mais dans certains cas, ça peut vraiment poser problème parce que des gens qui n'ont célébré qu'un mariage religieux se croient protégés par ailleurs par les lois de la République qui protègent les conjoints en cas de conflit. Donc on voit déjà à travers cet exemple-là combien il est nécessaire que la loi civile soit absolument respectée. Et puis une autre chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que la loi civile ne tombe pas du ciel et qu'elle est faite par les législateurs qui sont des élus et que les lois elles-mêmes évoluent et sont faites pour s'adapter aussi à l'évolution des contextes et aux besoins qu'ils soulèvent.
Là, il y a deux choses. La première, c'est, dit-on, et c'est vous qui rectifierez cela, que tout législateur, quel qu'il soit, au moment où il vote la loi, le fait en nom d'un principe transcendant, métaphysique, qui est le sien. Et parfois, il y a des consignes de vote, mais que ça ne vient pas de rien. Il y a des raisons de la conscience du législateur lui-même.
Alors, sur l'existence d'un principe transcendant, franchement, affirmer une chose pareille, l'universaliser, ça me semble quand même un abus. Je crois que pour beaucoup de législateurs, il y a une analyse des besoins de la société telle qu'elle se présente, et aussi le respect d'un certain nombre de principes. Bien entendu, la loi doit se conformer au cadre constitutionnel, et comme vous le savez, c'est vérifié par les cours supérieures, particulièrement dont c'est vraiment le rôle.
Oui. Alors le second point, c'est qu'en démocratie, et vous l'avez dit, puisque les contextes évoluent, ben, si on n'est pas heureux d'une loi, ben, on la revoit. On la branche, on la change, on la fait évoluer.
Tout à fait. Alors il peut y avoir des lois qui deviennent obsolètes, qui ne sont plus pertinentes au regard des évolutions de la société. Alors, effectivement, on les fait évoluer. On voit, à l'heure actuelle, il y a tout un grand nombre de projets de lois qui sont en travail. Et puis, il peut y avoir aussi des lois qui ne correspondent plus à des engagements politiques. Mais à ce moment-là, ce sont des engagements politiques qui ont été décidés par une majorité du corps électoral.
Si nous restons encore dans ces considérations générales, la laïcité de l'État implique à la puissance publique et au pouvoir public d'adopter une sorte d'équidistance par rapport aux traditions religieuses, puisque l'État reconnaît les cultes, ou du moins ne salarie et ne finance aucun culte au détriment des autres.
Oui, alors là, je reprendrai l'expression d'un juriste qui disait que l'État ne reconnaît pas de culte, c'est ce qu'affirme la loi de 1905, qui en fait, à l'époque où cette loi a été adoptée, la loi parle dans un présent intemporel, mais en réalité, c'était mettre fin au régime qui avait prévalu jusque-là, qui était précisément le système des cultes reconnus. Mais effectivement, l'État connaît les cultes, c'est ce que dit ce juriste, et la loi 1905 elle-même prévoit un certain nombre d'aménagements à la séparation, particulièrement l'État doit garantir, la République doit garantir la liberté des cultes dans les lieux où les personnes ne disposent pas de leur liberté d'aller et venir.
Donc surtout dans les lieux dits fermés.
Dans les lieux fermés, que ce soit les prisons, bien sûr, mais aussi les hôpitaux. Et puis, peu à peu, une partie de ce principe a commencé à être appliquée, il est tout à fait appliqué maintenant, dans l'armée.
Et dans les internats.
Et dans les internats, et dans un certain nombre de lieux de passage, il est prévu que des endroits qui permettent aux personnes le recueillement et la prière existent. Par exemple, il y a des chapelles dans les aéroports.
La fameuse parole d'Aristide Briand, c'est la loi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi. Souscrivez-vous à l'idée qu'on peut ajouter « et la loi prime toujours la foi ».
Tout à fait. D'ailleurs, la loi prime, je dirais pas seulement la foi. La loi prime la foi, elle prime aussi sur des affects, des pulsions, et elle est bien là pour ça. Et
pour nous. C'était pour rester dans la rime dans la formule.
Oui. Absolument.
Bien. Vous avez évoqué la loi dite de séparation, la loi de 1905. Comment expliquez-vous, quelle est l'interprétation que vous en donnez? Pourquoi n'a-t-elle pas été appliquée alors qu'il y a la territorialité de l'État et de la République dans des départements d'outre-Méditerranée?
Alors, c'est une question assez complexe et à dire vrai, bon, moi j'essaye de la comprendre, mais en m'appuyant sur les travaux de mes collègues, de toute façon, il me semble que le domaine colonial est par nature, comment dire, n'est pas soumis à la loi par nature, dans beaucoup d'occurrences. Alors, il y a plusieurs... La loi de 1905 avait prévu, effectivement, qu'un règlement particulier serait élaboré pour un certain nombre de territoires coloniaux. Alors, les situations sont très différentes selon ces territoires. Mais si on prend par exemple, si on prend l'exemple de l'Algérie, hein, bien entendu, d'abord on a, disons que, on a essayé de repousser un petit peu dans le temps. On a prévu des dispositions réglementaires. Et là, il y a certainement plusieurs types de choses qui ont, plusieurs facteurs qui ont joué. La volonté du pouvoir de contrôler, de continuer à contrôler le religieux a certainement joué. Et aussi des difficultés qui sont apparues, en tout cas aux gouvernants de l'époque, à appliquer ce type de législation à une population qui était majoritairement musulmane. Alors qu'il faut rappeler que de la part de musulmans et de dignitaires musulmans même, il y a eu des demandes d'étendre la loi 1905. Ça a chopé, de ce point de vue-là, principalement sur la question du statut personnel et de l'abandon du statut personnel, ce qui nous ramène à la question du mariage et à la célébration des mariages.
Je le dis pour nos amis auditeurs que nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Et aujourd'hui, avec Rita Armand-Delot, nous parlons de laïcité, de pluralité en France. Et nous traitons du cas particulier de l'islam. Rita Armand-Delot est directrice d'études émérite à l'École des hautes études en sciences sociales, adossé au Centre des savoirs sur le politique, recherche et analyse, le CESPRA, auteur de l'ouvrage « Laïcité française et pluralité au cœur des enjeux » aux éditions du CNRS, donc CNRS Éditions. Alors, c'est vous-même qui avez parlé, chère Rita Armand-Delot, du cas de l'islam et surtout sous férule coloniale. Le président des oulémas algériens, oulémas, terme générique, pluriel, qui veut dire savant, docteur de la loi, etc. Et puis une délégation est venue quérir auprès du Conseil d'État pour que la loi fût appliquée. Et à ma connaissance, les associations diocésaines étaient dirigées par les responsables des cultes concernés, sauf celle qui concerne l'islam, où c'était le secrétaire général de la préfecture du département concerné qui, lui, dirigeait l'association cultuelle.
Oui. Alors, je rappelle simplement que les associations diocésaines, elles ont été autorisées à se former elles-mêmes seulement en 1923. La loi de 1905 ne prévoyait que des associations, en fait, libres, locales, au niveau de ce qu'on pourrait appeler les paroisses.
Et puis, l'encyclique Maximum Gravissimum Quae de 1924 a donné, en gros, son assentiment à la fameuse loi de 1905. Revenons sur l'encyclique Vehementer Nos, qui avait condamné tous les députés catholiques qui avaient osé voter la loi de séparation.
Oui, et justement parce que on estimait, enfin, cette partie de l'Église catholique estimait que, en donnant un libre initiative aux fidèles pour créer leurs associations, ce que prévoit la loi de 1905, nuisait à la structure même de l'Église catholique. Et effectivement, il y a eu cet arrangement en 1923 qui a permis de créer des associations diocésaines. Mais en ce qui concerne l'islam, il y a effectivement ce qui a pesé, c'est la question coloniale, très certainement, et la volonté de garder un contrôle, et un contrôle, encore une fois, de la religion, de la part de l'autorité locale. Mais ça a fait l'objet de débats importants, hein, entre les hommes politiques français. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui paraissait difficile à résoudre, c'était la question du statut personnel.
D'une manière anecdotique, mais parfois avec des conséquences tragiques, avec ce statut de l'indigénat, il y avait les musulmans, ou une sorte d'ethnicisation par la confession, puisqu'on parlait des musulmans et on parlait aussi du culte mahométan. Et puis il y avait les Européens. Et quand il advenait que des musulmans se convertissent au catholicisme, ils restaient musulmans et on parlait de musulmans catholiques. Et quand il advenait que des Européens, selon ce statut-là, se convertissaient à l'islam, ils ne devenaient pas musulmans. Au sens du statut, ils sont Européens tout court. Et ça, ça fait partie de ces anomalies que je voulais un peu souligner.
Oui, du rapport colonial.
Rita Armand-Belot, si vous voulez bien, d'une manière un peu plus fondamentale, mais ce n'est peut-être pas le lieu de nous y appesantir. Que diriez-vous à ceux qui soutiennent, ou en tout cas qui tiennent l'assertion suivante, en dehors de la sagesse du judaïsme diasporique avec Dina, di Malchuta Dina, la loi du royaume et la loi du pays et la loi, cette bonne formule en hébreu, aucune religion, et notamment des religions à vocation universelle, n'a renoncé, ne renonce au pouvoir temporel motu proprio, et aucune religion ne résiste à la laïcisation, surtout lorsqu'elle est comprise, voulue, assimilée, intégrée, promue par ses propres théologiens et ses propres penseurs.
Alors là, moi, je me référerais encore une fois à l'histoire. Hein. Et il faut quand même peut-être rappeler aujourd'hui que la démarche de neutralisation, de laïcisation, elle a enlevé, dans l'histoire française, elle a enlevé à l'Église catholique le contrôle d'un certain nombre d'institutions qu'elle avait créées. Le rôle de l'Église catholique a été très important, notamment bon, pour la question de l'école. Les premières écoles ont été créées par les catholiques. Dans la question de la santé, dans la question des hôpitaux, et ça se voit encore, il y a un certain nombre d'hôpitaux, c'était le terme hospice qui était employé, mais il y a un certain nombre d'hôpitaux qui portent encore des noms qui réfèrent à la culture catholique. Donc effectivement, la démarche de laïcisation, elle enlève le contrôle d'un certain nombre d'activités aux institutions religieuses.
Dans ma question, il y avait cette idée que le christianisme, c'est toujours facile de dire le ou les articles définis sont souvent problématiques, mais le christianisme n'a pas de difficulté avec la laïcité. On ne parle quasiment jamais maintenant d'incompatibilité entre le christianisme et la laïcité, alors qu'on parle d'une incompatibilité irréductible entre l'islam et la laïcité. Et alors, serait-il intrinsèque, organique, structurel, propre à la tradition religieuse islamique d'être réfractaire à la laïcité, au sens les comportements, notamment en France, des musulmans ou de certains musulmans ou de la jeunesse musulmane pour X raisons, notamment identitaires, qui font dire à ceux qui tiennent le propos de l'incompatibilité irréductible.
Alors, je dois dire que ce type d'absolu, quand on est historien, on a du mal à les considérer, parce qu'on voit dans les évolutions historiques des changements tellement importants. Encore une fois, vous rappeliez d'ailleurs un certain nombre d'encycliques papales qui s'opposaient très très fortement, hein, en mettant d'ailleurs les catholiques du pays dans une situation difficile, qui s'opposaient donc très fortement à la laïcité d'abord, et à la loi de 1905 en particulier. Et puis finalement, des moyens de compromis ont été trouvés, et puis, effectivement, l'Église catholique a fini par tout à fait accepter, il y a eu un ralliement catholique à la laïcité, et toute une période où la laïcité, en fait, ce que je dis un petit peu dans le livre, c'est on n'en parlait même plus. On considérait même plus que c'était un sujet d'actualité, parce que ça faisait l'objet d'un tel consensus que, bon, c'était acquis. Et on n'avait pas besoin d'en parler. Alors maintenant, sur des fondamentaux dans l'islam, bon, d'abord, n'étant pas islamologue moi-même, et je ne pense pas qu'on puisse affirmer des choses si on ne connaît pas non plus la langue. Parce que dans la langue, il y a tout un tas de nuances. Alors, je dirais qu'à l'heure actuelle, il est évident qu'il y a un certain nombre de difficultés. Maintenant, de là à dire, on pourrait parler, si vous le souhaitez, de ces difficultés, mais de là à dire que c'est une situation irréductible, non, ça me semble vraiment une affirmation tout à fait hasardeuse. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre, par exemple en France, il y a un certain nombre de musulmans qui, justement, présente ces possibilités d'adaptation de la foi musulmane à la situation laïque française et de coexistence tranquille des musulmans avec d'autres fois ou absence de foi dans ce cadre.
Alors, bien évidemment, nous allons passer en revue toutes ces difficultés. Et si par bonheur, nous pourrions donner une esquisse d'ébauche d'une manière de pouvoir les aplanir et les surmonter, ça serait merveilleux. Peut-être là aussi deux réactions. La première, il est évident qu'actuellement, et notamment dans le monde dit musulman, curieusement, on ne disait pas avant Ferdinand de Lesseps, mais après on dit le monde musulman. Ou dans le monde dit arabo-musulman, il y a une telle collusion du pouvoir politique et du pouvoir religieux qui font que on gouverne selon le désir politique de Dieu. Mais ça couvre une gamme qui va de la monarchie absolue, jusqu'au marxisme-léninisme, certes dépourvu de sa dialectique matérialiste et athée, mais l'une et l'autre se réclament de l'application de la loi de Dieu. Alors, est-ce que cette loi de Dieu est si malléable et souple qu'elle englobe les contraires, ou en tout cas la monarchie d'un côté et le léninisme-marxisme de l'autre, ou c'est simplement une instrumentalisation éhontée?
Bon, certains considèrent que Dieu leur parle. Mais
ils ont scruté sa volonté, ils l'imposent à autrui.
Voilà, alors d'abord, il faudrait être convaincu que Dieu leur parle. Et puis par ailleurs, pour la plupart, que ce soit dans l'islam ou dans les autres religions du livre, on est face à des interprétations d'un texte qui serait un texte donné aux hommes par Dieu. Alors, il y a effectivement peut-être un certain nombre de difficultés particulières, des difficultés anciennes, des difficultés effectivement qui sont héritées de l'histoire, et puis des difficultés très contemporaines. Alors, si je peux essayer d'en faire un peu une liste. Alors, il y a peut-être la question de la structure même du livre saint, et donc de la relation qu'il engendre. Et c'est vrai qu'il me semble, alors je ne suis pas du tout une spécialiste, mais il me semble qu'il y a des aspects dans le Coran plus normatifs, qui prescrivent plus clairement, qui s'adressent au fidèle en lui prescrivant un comportement plus que dans le livre saint des autres traditions du livre. Et puis, il y a aussi la question de l'évolution du rapport à l'écriture, et notamment de la contextualisation ce rapport, alors que dans une partie de ce qu'on appelle le monde musulman, la tendance est plutôt une tendance qui se prétend retour à une pureté originelle. Celle des salafs, je crois.
Hein. Oui, bien sûr.
Et pureté originelle dont certains spécialistes de l'islam disent qu'elle est totalement réinventée, et qu'en réalité, que l'idée même d'un retour aux origines est fallacieux, en l'occurrence. Et bon, ceci dit, il faut dire que dans toutes les religions du livre, et dans l'islam en particulier, de tout temps, des lectures différentes ont cohabité. Alors, en ce qui concerne le rapport au politique, est-ce que l'on peut dire que le fait que Mahomet lui-même ait été un chef politique de son vivant, aussi, comment dire, donne une spécificité, une particularité à l'islam que n'ont pas les autres religions du livre. Et puis, dans l'histoire aussi, le fait qu'il y ait eu une relation étroite, très étroite, entre le politique et le religieux, avec, j'ai l'impression, plutôt une domination du politique sur le religieux que l'inverse. Alors, à cela, je rajouterai encore, si vous voulez bien, la question de la situation majoritaire et de la situation minoritaire. Parce que ça, il me semble aussi que ça joue un rôle très important dans l'élaboration d'habitus des différentes religions. Et c'est vrai que l'islam s'est plutôt vécu en situation majoritaire. Et aujourd'hui, il y a des pays qui se revendiquent comme pays musulmans, qui se revendique comme tel, ce qui ne me semble pas trouver ailleurs. Alors, il y a aussi des circonstances tout à fait contemporaines. Alors, par exemple, dans le cas français, le fait que l'islam est la religion de gens, alors il y a eu il y a des générations différentes, mais d'immigrants. Et ça, ce qui veut dire une plongée soudaine dans un contexte complètement différent de celui qu'on a pu connaître jusque-là. Et là, il me semble qu'il y a une question qui est très importante, c'est celle de la formation des imams. Parce que c'est eux qui pourraient être justement le guide des fidèles pour s'adapter à ce contexte. Mais il faut tenir compte, me semble-t-il, de la brutalité, je crois, que peut j'imagine, peut représenter cette plongée. Et puis, il y a un autre élément très très contemporain, qui est la globalisation. Et particulièrement, je dirais, la globalisation des moyens de communication, d'Internet, des télévisions, et notamment des télévisions satellitaires, qui font que, à la fois, on appartient au lieu de vie, mais on peut appartenir, avoir le sentiment aussi d'appartenir à une communauté beaucoup plus large dont les normes sont façonnées ailleurs. Et parfois aussi, avec une compréhension qui est une compréhension très, je dirais carrément très fausse, de ce qui se passe sur le territoire français et qui est donné ailleurs. Et je crois que tous ces éléments jouent un rôle très très important à l'heure actuelle.
Alors, Rita Armand-Belot, vous avez raison et vous avez bien fait de passer en revue ces difficultés ou quelques difficultés, puisqu'il y en a encore davantage,
oui, je les ai pas bien toutes entendu. Mentionnées, loin de là.
Et chacune d'elles nécessite des colloques, une émission ad hoc, etc. Peut-être que pour nos auditeurs, nous allons les reprendre une à une, mais d'une manière très brève. Le texte normatif, aussi étonnant que ça puisse l'être, mais n'y aurait-il eu qu'une norme ou deux avec cette obsession, elle aurait posé problème, certes, mais je ne suis pas sûr que l'approche quantifiée ou quantitative soit pertinente. Mais ça n'est que de l'ordre du 1/30 du texte. On aurait au mieux 200 versets coraniques sur 6236, et encore, qui ne sont pas tous ou toutes, je parle de ces normes, bien explicites. La meilleure preuve, c'est qu'il y a 4 écoles juridiques, et d'ailleurs 4 n'est pas garanti par le divin. Ça aurait pu être 3 comme ça aurait pu être 5, et ça a failli ne rester que 3, et ça a failli être 5. Et donc, la compréhension et l'interprétation de ces normes devient une construction humaine. Mmh. Et le fait d'avoir 4 écoles, ça relève de l'homme, j'allais dire. Chef politique, c'est vrai, pas plus, pas moins qu'un Jason, qu'un Moïse, moins d'ailleurs qu'un Salomon, qu'un David. Mais le plus important, c'est qu'il n'a pas laissé de consignes quant à sa succession. Ce qui fait dire du califat que c'est une construction humaine aussi et qui n'a aucune valeur sacrale. Ce n'est pas moi qui fais l'émission, certes. Et les pays musulmans avoir dans la constitution islam religion de l'État n'a aucun sens, puisque l'État en tant que tel, surtout l'État westphalien, ne va pas prier, ne va pas jeûner, ne va pas accomplir le pèlerinage, etc. Ça relève de l'archaïsme de la science politique, si je puis dire. En revanche, certes, dans notre pays, la formation des ministres du culte, des imams, est cruciale, bien entendu. Et que l'islam soit la religion des immigrants, c'est indéniable. Tout dépend aussi de leur statut économique, parce que ceux qui sauvent le marché des hurlings à Deauville ne posent pas de problème, qu'ils soient d'ailleurs musulmans pratiquants ou pas. Alors comment, et là je vous pose directement la question, Rita Montbelot, l'État qui se veut neutre, ou du moins une de ses définitions, il y a la neutralité de l'État quant à la chose religieuse. Quand on est neutre, on n'est pas incompatible, ni compatible d'ailleurs, puisque neutre, néutère, c'est ni l'un ni l'autre, étymologiquement. Alors pourquoi parle-t-on d'incompatibilité, de la laïcité comme un principe juridique de neutralité et d'une religion, en l'occurrence l'islam?
Alors, peut-être souligner le fait que des deux côtés, on parle d'incompatibilité. Et moi, alors là, on rentre aussi dans des options qui sont vraiment des options personnelles, mais moi, j'ai le sentiment que ce sont vraiment des pôles opposés qui parlent d'incompatibilité. Le problème étant la façon dont les discours des pôles opposés arrivent à se faire entendre. Et le discours de ce que j'appellerais peut-être une majorité silencieuse est précisément silencieux et qu'on ne l'entend pas suffisamment. Et justement, je pense que une des grandes qualités qu'il faut reconnaître à votre émission, c'est que précisément, elle le fait entendre. Mais c'est un discours qu'on n'entend pas suffisamment, et dont moi j'aimerais beaucoup qu'on puisse trouver les moyens de le faire entendre davantage. Bien.
Par définition, si une majorité est silencieuse, on ne sait pas ce qu'elle dit.
Oui,
par
mais définition. Il faudrait qu'elle le soit moins. Compte tenu des tensions, il faudrait qu'elle s'exprime davantage.
Et on dit souvent que l'histoire est faite par les minorités agissantes aussi, mais je le dis sous le contrôle de l'historienne que vous êtes.
Oui, si les minorités agissantes ne sont pas suivies par les majorités, les résultats sont moins probants.
En précisant à nos amis auditeurs que nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Rita Montbelot, directrice d'études émérites à l'École des hautes études en sciences sociales et en étant attachée au Centre des savoirs sur le politique, recherche et analyse, le fameux CESPRA. Et donc ma question était, chère Rita Montbelot, que il y a effectivement, mais il faut savoir sortir par le haut d'une crise qui a assez duré, des faits cumulatifs, et certes de la violence, et de la violence terroriste, inaugurée en France, si j'ose dire, par le criminel Merah en 2012, en s'attaquant à des enfants innocents qui allaient à l'école, à Ozar Torah, et s'est arrêté, parce qu'il y a eu des attentats qui ont été déjoués depuis, et tant mieux, par l'assassinat de Dominique Bernard. Ceci a laissé beaucoup de séquelles dans une nation résiliente là-dessus. Et donc, il faut tenir compte de ce choc et de ces traumatismes récurrents. Émaillé aussi par différentes polémiques. Et vous évoquez dans votre ouvrage la question de la tenue intégrale, là, du voile intégral. Pensez-vous que si simplement les édiles ou les premiers magistrats des villes avaient pris un arrêté où on dit que la République se vit à visage découvert et qu'en dehors des carnavals, on ne doit pas dissimuler le visage, ça aurait été plus judicieux que de légiférer?
Oui, alors je voudrais juste revenir un instant sur le terme résilient que vous avez employé, parce que ça aussi, je crois qu'il faut le dire, il y a eu une très grande résilience. Moi, j'avais été très impressionnée par le succès de librairie de ce livre qui s'appelait « Vous n'aurez pas ma haine ». Et qui est un livre qui avait été écrit par une des victimes, alors je ne me souviens plus exactement, mais de 2015, du Bataclan, qui avait notamment perdu, je crois, son épouse. Hein.
Et qu'on avait brocardé pour naïveté obtuse.
Mais ce livre a eu un succès de librairie énorme. Oui. Et ça me semble tout à fait significatif. Alors, maintenant, je pense que c'est à la loi de 2010 que vous pensez. Oui. Alors, comme effectivement, je le dis dans mon livre, moi, je n'ai pas été, pour beaucoup d'autres législations, je pense qu'il ne faut pas du tout les accuser d'hostilité envers l'islam, contrairement à ce que font certains. Mais pour la loi de 2010, je reste peu convaincue, effectivement, de la nécessité de cette loi. Alors, je ne suis pas non plus juriste, mais il me semble qu'il était déjà précisé par la loi, ce serait à vérifier, hein, mais il me semble qu'il était déjà précisé par la loi l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public, c'est-à-dire que tout visage doit pouvoir être reconnu dans l'espace public. Et je ne suis effectivement pas convaincue de la nécessité de cette loi. En revanche, je me dis, bon, je ne sais pas si c'est possible dans le climat de tension actuel, mais si on la remettait en discussion, est-ce que ça ne serait pas non plus un geste très positif?
Oui, bon... Je n'ai cité que cet exemple-là pour vous dire que, bon, maintenant c'est derrière, et heureusement, et tous les citoyens, quels qu'ils soient, doivent appliquer la loi. Ça revient au début de notre discussion. Par moment, on pense que par la législation, on règle les choses. Or, ma question a été, est-ce que l'inflation législative permet de résoudre des problèmes aussi profonds qui nécessitent éducation, instruction, connaissance, préparation à la citoyenneté, etc.
Alors ça, effectivement, il faut faire le bilan. Ce que font d'ailleurs, hein, les services publics font le bilan d'application de la loi. Alors, par exemple, si on pense à la loi de 2004 sur les signes ostensibles, le port des signes ostensibles dans les écoles publiques, hein, moi, il me semble que c'est une loi qui a quand même effectivement amélioré la situation. Moi, j'étais professeure dans l'enseignement secondaire à l'époque. Et je me souviens, quand les discussions ont commencé sur ce sujet, j'étais dans un établissement où, effectivement, on a vu, dans un arrondissement de Paris, dans le 20e arrondissement, où il y avait une présence musulmane importante, et on a vu apparaître le foulard. Et au début, on n'y a vraiment pas fait attention. On n'a pas du tout d'emblée, on n'est pas monté sur nos grands chevaux d'emblée, du tout, du tout. C'est en constatant que ça s'accompagnait des changements du comportement des filles, qu'il y avait aussi à ce moment-là des rassemblements d'élèves selon la religion, notamment ça se voyait à la cantine, qu'on a commencé à s'alarmer. Et j'essaye de faire l'historique de cette loi dans l'ouvrage, ce qui montre entre 1989, où le problème a commencé à être discuté, à apparaître dans la sphère publique, et 2004, l'adoption de la loi, on ne s'est pas précipité. Et il me semble très important, alors je suis historienne, donc sensible à la durée, mais il me semble très important de restituer la durée des mesures législatives qui ont été adoptées et la durée pendant laquelle on n'a pas voulu les adopter. Et si on a fini par les adopter, c'est, je crois, parce qu'il y a eu constatation d'un réel besoin. Alors, il est sûr qu'il ne faudrait pas qu'il y ait inflation législative et que les lois doivent être accompagnées d'explications. Mais là, je vais vous dire très franchement, moi, il me semble qu'il y a une lacune dans l'enseignement français, et qu'on devrait parler de droit à l'école. Les expressions éducation civique, instruction civique que j'ai pratiquées, ça me laisse un petit peu sceptique, mais je trouve qu'on devrait expliquer assez tôt aux jeunes en formation ce qu'est le droit et leur expliquer que le droit n'est pas seulement un système de contraintes, mais qu'il est avant tout un système de protection.
Notre émission arrive à son terme et l'entretien avec vous est passionnant, cher Rita Armand-Belot. J'en fais pas une fixation à propos de cette affaire du voile. Hélas, mille fois hélas, c'était une question réglée. Je parle ailleurs, dans le monde musulman ou dit musulman. De Jakarta à Casablanca ou de Peshawar à Zanzibar ou de Mossoul à Kaboul, on n'allait pas à l'université et a fortiori au lycée, au collège, voilé. Et il a fallu qu'il y eut cette année fatidique de 1979 et pour qu'il y ait ce revoilement telle une revendication à la fois politique, idéologique, en France peut-être identitaire aussi, et ça a provoqué, j'allais dire, des polémiques, alors que ça aurait dû et ça aurait pu être réglé en interne s'il y avait des imams, des recteurs de mosquées compétents et sérieux.
Oui, on retrouve là la question effectivement de la formation des imams et d'institutions musulmanes qui pourraient donner un discours plus homogène aussi aux fidèles. Et comme vous le dites très bien, cette question du port du voile est plutôt une résurgence ou alors même un déguisement de ce qui aurait été une tradition et qui impose quelque chose qui en fait a évolué complètement et n'était plus dans les traditions. Alors, je rappelle seulement que le port du voile n'est absolument pas interdit dans l'enseignement supérieur. Moi, j'ai eu des élèves portant le voile et aucun enseignant n'a à leur demander des comptes ou à leur dire quoi que ce soit. Et que, par ailleurs aussi, une des particularités de la loi de 2004, qui avait fait l'objet de pas mal d'hésitations, c'est que dans le domaine de l'école privée sous contrat, c'est-à-dire financée par de l'argent public, le port des signes ostentatoires n'est pas interdit. Donc qu'il y a des lieux possibles pour les jeunes filles ou les familles qui pensent qu'elles doivent absolument porter le voile.
Et la laïcité permet, autorise, dans le cadre du respect de l'ordre public, que les gens s'habillent comme ils l'entendent aussi.
Absolument.
C'est un principe de liberté. Merci infiniment, c'est parce que vraiment nous arrivons au terme de l'émission. Et vous êtes la bienvenue, les sujets sont denses et récurrents. Oui. Et donc vous pourrez, si vous le souhaitez, venir davantage nous en parler. Surtout que votre ouvrage « Laïcité française et pluralité au cœur des enjeux », ce sont des enjeux cruciaux, paru aux éditions du CNRS, recèle à la fois des indications, des solutions et puis une présentation historique. Merci à vous.
Merci à vous.
Alors, chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Et vous retrouverez l'émission, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture. Et vous pourrez la podcaster, la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Manon Houssin. Et la réalisation par l'ami François Connac.